16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver pour deux heures d'histoire exaltante en compagnie du plus exaltant des présentateurs, Stéphane Bern, un journaliste au professionnalisme irréprochable, sauf quand il a bu.
On ira où tu voudras quand tu voudras.
Oui, bonjour Stéphane.
Et on s'aimera encore.
Oui. Dès 16h, de plus en plus tôt, donc il va falloir qu'on en parle quand même de ce problème de boisson, Stéphane.
Mais non, c'est pas moi qui ai un problème avec la boisson. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Mais non, ce n'est pas vous. D'ailleurs, c'est le thème de notre émission.
C'est pas moi.
Mais j'ai compris Stéphane, c'était pour rire.
Non mais, c'est pas moi, c'est le point commun qui relie nos personnages du jour.
C'est pas moi.
Leur nom prête à confusion. À commencer par celle qui fut impératrice et a associé son nom à jamais à son pays qu'elle a dirigé d'une main de fer. Ceci l'impératrice.
Je ne suis pas autrichien, mais je crois bien qu'on dit Sissi l'impératrice, Stéphane.
Non, non, c'est bien l'impératrice chinoise, ceci dont je vous parle aujourd'hui. Et l'autre Sissi était bavaroise, pour votre information, avant de devenir autrichienne.
Oui, vous m'avez l'air quand même un peu... vous m'avez l'air doué pour le chinois, quand même. J'ai l'impression que c'est une langue dans laquelle vous êtes...
Mais parce qu'on l'écrit Sissi... Et ça se dit « aussi ».
Oui, c'est vrai que ça prête à confusion.
Ça prête à confusion, oui. Et puis ensuite, je vous raconte Simone Veil.
Ben, sa loi pour l'IVG.
Non, Simone Veil avec un W. Avec une W. Philosophe moins connue que l'autre Simone Veil, avec un V, mais tout aussi brillante, oui. Toute sa vie, elle a défendu les opprimés.
Évidemment. Quant à moi, je vous raconte celle qu'on confond avec notre consoeur qui prend le relais à 18h.
Punchline avec Lolo Ferrari.
Voilà, alors vous, par exemple, Stéphane, donc cet après-midi, je ne vous raconte pas Laurence Ferrari, mais bien Lolo Ferrari, hein, la vraie, elle est blonde aussi. Mais je crois bien que la comparaison s'arrête là et c'est peut-être mieux comme ça.
Oui, mais quand on connaît bien Laurence, on l'appelle Lolo.
Oui, mais je pense que quand elle aura entendu le portrait que je vais faire tout à l'heure de Lolo Ferrari, elle vous dira, c'est Laurence pour toi, Stéphane.
Oui, en passant. Vous, ce que vous aimez, moi j'aime les lolos et vous aimez les Ferrari. Alors, avec nous, comme chaque jour, on aurait
vous
dû...
Vous êtes venu comme ça, celle-ci, ou vous avez plusieurs jours que vous bûchez dessus?
Non, ça, c'est sorti.
Quel génie.
On aurait du mal à les confondre. Oui. Ce sont nos chroniqueurs, celles qui nous entraînent dans l'intimité des grandes ce monde. Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vais rendre à Bayard ce qui est à Bayard, non pas le Bayard contemporain de François Ier et de la Renaissance, mais un certain Bayard Rustin. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Il était le conseiller politique de Martin Luther King, la fameuse marche sur Washington de 63, le I have a dream de Martin Luther King. C'est lui, mais Bayard Rustin, noir, homosexuel dans une époque homophobe, eh bien, son nom est passé à la trappe.
T'as tiré mauvais numéro dans le chapeau, là.
Mais oui, mais c'était vraiment un personnage exceptionnel et qui, dont la mémoire est réhabilitée ces dernières années, et ça n'est que justice. Bayard.
David Castello-Lopez est avec nous, Stéphane.
Aux origines.
Il y a des transitions qui sont vraiment difficiles.
On va réussir, ça va bien.
Alors allez-y. Une chose, il remonte aux origines de ce qui fait le bonheur des familles bourgeoises dans les salles de bain. Des immeubles haussmanniens.
Les familles bourgeoises des années 50.
Non, vous avez, pour la toilette intime, c'est parfait.
Un bidet, vous avez, non, un c'est bidet, pas ça oui. C'est le bidet, non, l'origine du bidet.
Je vous dis toujours, mais ça c'est quand vous êtes à Portofino l'été. Non, les bidets en France, il n'y en a plus beaucoup, même dans les appartements haussmanniens.
Il n'y en a plus énormément. En Italie, effectivement,
en Italie, ça
reste. Au Portugal, un petit peu. Les pays propres. Quoi.
Qui a inventé le bidet? Vous nous révélerez le nom de son inventeur, peut-être tout à l'heure. C'est précis.
C'est pas si précis que ça,
non. Si, je suis sûr que ça sera
une bassine.
Et puis, avec Olivier Pouls, on remonte aux origines, parfois d'une recette, d'un plat, mais là, en l'occurrence, c'est un mets.
C'est un légume, c'est le cornichon. Il y en a même qui l'ont chanté, d'ailleurs.
Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre.
Oh, Michel, tu nous manques.
Nino
Ferrer, j'ai confondu. Mais parce qu'on a entendu Michel tout à l'heure.
Nino Ferrer qui a chanté Mirza aussi.
Ah,
vous
n'avez
pas vu le Sud.
Il a chanté Mirza en honneur à votre chien, Stéphane.
Non, j'ai appelé ma chienne Mirza en l'honneur à la chanson de Nino Ferrer.
C'est dans ce sens-là. Moi, je pense toujours que c'est.
C'est celle qui est décédée ou c'est...
Non, elle vit toujours.
Mirza est en pleine forme. On la salue si elle nous écoute. Nous jouerons tout à l'heure également. Elle remue beaucoup la queue, surtout au moment du quiz de Bernd Tobiolas qui vous oppose à Clémentine.
Vas-y, papa,
défonce. Alors, écoutez, il s'est passé des choses graves dans les quiz,
exagérer,
les deux quiz de cette émission la semaine dernière. Puisque la semaine dernière, on l'a régi. C'est-à-dire, le réalisateur de cette émission, Philippe Amardeille, l'odieux Philippe Amardeille, m'a soufflé dans l'oreillette que Clémentine Portier-Kaltenbach avait dit une bêtise durant sa chronique et que les chats n'avaient pas 9 vies, mais 7 vies. Il m'a dit ça. Donc moi, je le dis à l'antenne, bêtement, je répercute les informations qu'on me donne. Il me dit oui, j'en suis sûr. On s'est engueulé avec Clémentine. On s'est pas parlé du week-end, on peut dire la vérité aux Français.
Oui, enfin, j'avais survécu à cette injustice qui n'est pas la première.
Qu'est-ce que j'ai appris à la fin de l'émission? C'est qu'en fait, c'était un piège. Les chats avaient bien 7 vies, et non pas 9, comme je l'avais dit. On m'a soustrait des points dans le quiz, ce qui est absolument honteux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Stéphane, vous démarrez le quiz avec 5 points en moins. C'est la punition, c'est la sanction qui tombe. Évidemment, rendez-vous tout à l'heure.
On va peut-être
ça sera très dur pour vous de remonter, à mon avis,
c'est tellement
ce
impossible que
on
je
va peut-être
que
pas faire le quiz.
On va pas faire le quiz.
Si, enfin, quand même, il y aura des points bonus.
Ça, on verra. Ça, j'économise. Je ne perds pas plus de points. Je préfère ne pas participer à la course. Comme ça,
non, c'est impossible.
Je garde mon capital.
Non, vous serez obligé de participer à Bern to be alive. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle n'a ni épousé François-Joseph Ier, ni même visité l'Autriche. Elle n'a pas été assassinée à Genève et Romy Schneider ne l'a pas incarnée au cinéma. En revanche, elle a bien été impératrice, mais de Chine. Stéphane Bern nous raconte, non pas Sissi, vous l'aurez compris, mais Tsi, l'impératrice. Oui, oui.
Nous sommes en Chine impériale, au nord-ouest de Pékin, sur près de 300 hectares s'étend le somptueux Yeyuan, le palais d'été. Symbole de l'architecture traditionnelle du pays, il sert de refuge aux empereurs qui, à l'écart du fourmillement incessant de la capitale, peuvent profiter d'un paysage de lacs et de montagnes, loin des murs de la cité interdite et de sa fournaise estivale. Alors, quel comble de voir l'édifice livré aux flammes en 1860. En pleine seconde guerre de l'opium, le déchaînement des forces alliées anglo-françaises débouche en effet sur la destruction du palais d'été. 20 ans plus tard, l'impératrice Tsi prend les choses en main. Pour son 60e anniversaire, elle fait rebâtir l'édifice en n'hésitant pas à piocher des sommes considérables dans des fonds destinés à la marine. En 1903, enfin, l'impératrice veuve s'y installe avec une ribambelle d'eunuque. Sa résidence privée, la salle du bonheur et de la longévité, fait face au lac de Kunming. Ce jour-là, à l'intérieur, l'impératrice prend place au bout d'une longue table. Le repas arrive. Tsi va se faire servir comme à son habitude, 128 plats différents. Et alors, elle fait bien ce qu'elle veut, hein. C'est elle qui est l'impératrice, elle dirige le pays. Née en 1835 à Pékin, Tsi est élevée dans une illustre famille mandchou. On lui apprend, c'est rare, à lire et à écrire. Comme elle appartient à l'ethnie régnante de la dynastie Qing, elle a la chance de ne pas subir l'abominable torture des pieds bandés. Ça fait 1000 ans que les jeunes filles doivent porter des bandelettes serrées pour déformer leur chair et courber les os. Le but d'une telle barbarie? Que leurs pieds ne dépassent pas 7,5 cm. À l'âge de 16 ans, Tsi est introduite, avec ses grands pieds donc, à la cour impériale au titre de concubine. Elles sont près de 60 jeunes filles à pouvoir se vanter de divertir l'empereur Xianfeng. Mais Tsi va toutes les devancer. Concubine de 6e rang, elle va se hisser tout en haut du podium en donnant naissance au premier fils survivant de l'empereur, le petit Tongzhe, en 1856. Elle devient ainsi l'épouse numéro 2 après l'impératrice Zhen. En 1861, l'empereur meurt prématurément à l'âge de 30 ans. Tongzhe lui succède sur le trône, mais ses pieds ne touchent pas encore le sol parce qu'il a à peine 5 ans. C'est donc Tsi, impératrice douairière, qui exerce la régence. Elle en a 26. Elle compte bien mener à bien, comme elle l'entend, sa mission. Dans un semblant de coup d'État, Tsi se débarrasse des régents encombrants mis en place par l'empereur qui n'est plus. Quelques-uns sont condamnés à mourir par la lente torture du Linzhe, dit aussi la mort des 1000 coupures.
Qu'est-ce que c'est que ça, hein?
Cela consiste, bon, attention aux âmes sensibles, hein, il vaut mieux qu'ils s'éloignent du transistor, à entailler et retirer par tranches fines muscles et organes du condamné, un peu comme on éplucherait une pomme à l'économe. Avant, enfin, de lui trancher la tête.
Mais qui vient comme un soulagement, du coup. Pour
oui, en matière de torture, la Chine a plus d'une corde à son arc. Habile, Tsi n'utilisera que très peu la torture et la condamnation à mort. Contrairement à l'image véhiculée par sa légende noire, elle ne fut pas une despote sanguinaire. Tsi a maintenant les mains libres pour régner, surtout que l'impératrice Zhen, avec qui elle est censée partager les pleins pouvoirs, reste dans son coin. On peut comprendre qu'elle ne se sente pas les épaules pour diriger un pays en si piteux état. La Chine a perdu contre l'Occident lors des deux guerres de l'opium, particulièrement dévastatrices. Pendant ce temps, Tongje grandit dans l'ombre de sa mère, mais grandit quand même. En 1873, il atteint la majorité. L'impératrice Cixi reste aux manettes et utilise son fils comme une marionnette. Normalement, elle ne doit pas assister aux séances du conseil dans la salle du trône. Normalement. On ne la voit pas, mais Cixi est bien là. Elle règne littéralement derrière le rideau, car elle se cache derrière un paravent pour entendre tout ce qui se dit et murmurer à l'oreille, non pas des chevaux, mais de son fils Tongje. Comme on l'a dit, elle sait lire et écrire et l'empereur Xianfeng l'avait initiée aux affaires de l'Empire. La politique et le protocole, Tongje, lui, s'en contrefiche. Ses passions se résument en deux mots, opium et prostituée.
Comme vous, Stéphane.
Pas du tout. Malheureusement, à trop jouir du libertinage, le jeune empereur attrape la syphilis. Mmh. Il meurt 2 ans seulement après son accession au trône. Cixi fait mine de pleurer son fils, mais elle est bien contente de conserver les rênes du pouvoir. Et pour être sûre de les garder encore longtemps, elle n'hésite pas à violer les règles dynastiques mandchoues en faisant adopter de manière posthume son neveu par son fils. Résultat, le fils de sa sœur est désormais successeur au trône. Mais comme celui-ci, le futur empereur Guangzhou, n'a que 4 ans, je vous laisse deviner qui va continuer à gouverner bien tranquillement.
Bien sûr.
Cixi, l'impératrice, règne sur la Chine durant 47 ans. Le bilan de son long mandat est mitigé. Contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, l'impératrice douairière n'était pas réfractaire à la modernité. Au contraire, elle aurait même fait de la Chine médiévale un état moderne en développant les industries, les chemins de fer, l'armée, les universités, où elle encourage d'ailleurs les femmes à y étudier. Hyper connectée, elle a même fait installer le télégraphe dans tout le pays. On a déjà vu plus conservatrice. Mais sous son règne, le pays est en proie aux guerres, aux catastrophes naturelles et aux rébellions. La révolte des Taiping, que la dynastie Qing met près de 15 ans à mater, est même considérée comme l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire. Résultat, la population de la Chine passe de 450 à 400 millions d'habitants entre 1850 et 1890. Elle perd aussi de grands territoires. Quand les boxeurs opposés à la présence d'étrangers et de chrétiens en Chine se soulèvent, Cixi fait l'erreur de les soutenir et sa réputation en prend un sacré coup. Alors, pour redorer son image, elle multiplie les flatteries envers les épouses de diplomates. Cixi a un modèle en Occident, la reine Victoria. Pendant la fin de son règne, elle tente de mettre en place une transition démocratique en s'inspirant de la monarchie constitutionnelle britannique. Elle permet le développement d'une presse libre, abolit la torture ou l'esclavage et tente d'interdire la pratique des pieds bandés. Mais celle-ci est décidément très ancrée. En 1908, âgée de 72 ans, Cixi sent la mort venir. Un jour, avant qu'elle ne rende son dernier souffle, l'empereur Guangzhou, son neveu, qu'elle a fait adopter à titre posthume par son propre fils déjà mort, pour lui offrir le pouvoir, mais pas tout de suite, je vous le rappelle, Guangzhou, donc, décède brutalement. L'aurait-elle empoisonné avec un yaourt à l'arsenic pour qu'il ne lui survive pas? C'est possible. Avant de mourir, Cixi nomme Puyi, un enfant de 3 ans, héritier du trône. Puyi sera le dernier empereur de Chine. En 1911, la dynastie Qing est renversée. Avec elle disparaît le régime bimillénaire de la monarchie impériale. Et la Chine devient une république. Si, si. À quelques milliers de kilomètres de là, la monarchie autrichienne s'effondre peu de temps après pour laisser place, là aussi, à une république. L'avant-dernière impératrice d'Autriche n'était autre que l'homonyme occidental de Cixi. Cixi, l'impératrice, coïncidence. Oh, certainement une coïncidence.
Certainement, Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et alors, pour essayer d'en savoir plus sur cette Cixi, l'impératrice, nous avons le plaisir, Stéphane, d'accueillir une historienne et sinologue qui la connaît très bien. Bonjour, Daniel Elisseyev.
Bonjour.
Bonjour, Daniel Elisseyev. Vous avez publié une passionnante biographie de Cixi, impératrice de Chine, disponible chez Perrin. Déjà, rappelons le contexte pour nos auditeurs. Lorsque Cixi accède au pouvoir en 1861, la deuxième guerre de l'opium vient de s'achever. La Chine est vaincue, on peut dire qu'elle a été fortement abîmée par ces conflits et l'Empire est très affaibli, n'est-ce pas ?
L'Empire est très affaibli depuis la fin du XVIIIe siècle, en fait. Et après, c'est la catastrophe. La Chine n'arrive pas à se transformer, ne saisit pas la révolution industrielle qui est en train de se passer en Occident et se trouvent désarmés. Enfin, quand on dit la Chine ne saisit pas, ça dépend qui. Vous avez tout un lobby d'administrateurs intelligents et ouverts à l'étranger et qui, eux, comprennent qu'il faudrait commencer à faire évoluer les choses. Mais vous avez ce système de la Cour et je pense le rôle de Tsé-Si, qui est une femme très intelligente, une femme de tête, qui a parfaitement compris qu'elle ne pouvait exister et exercer un rôle que dans ce cadre dans lequel elle est née. Elle est inadaptée, il aurait fallu la faire sortir, lui montrer qu'elle pouvait régner en dehors de la cour. Mais comme elle avait le sentiment que la cour c'était son univers à elle, elle y reste et elle bloque le pays pour rester, pour que le système du harem impérial ne change pas.
Si j'ai bien suivi, la dynastie Qing, elle règne sur la Chine impériale de 1644 à 1912, soit pendant près de 3 siècles. Comment elle se caractérise, cette dynastie ? C'est une des plus illustres ?
Alors, c'est une des plus illustres, si vous voulez, au XVIIe, au XVIIIe siècle. L'économie chinoise, la puissance chinoise au XVIIIe siècle fait d'elle est l'une des premières puissances mondiales, sinon la première puissance de l'Eurasie.
Alors j'ai évoqué dans mon récit l'éducation de Tsé-Si et surtout le fait qu'elle apprend à lire et à écrire, ce qui était rare à l'époque. La société mandchou était, j'imagine, très patriarcale.
Elle était patriarcale, comme la société chinoise elle-même. Et simplement, les femmes mandchoues avaient cet avantage extraordinaire que vous avez évoqué. Elles n'avaient pas les pieds bandés, et c'était donc des femmes qui marchaient librement, qui n'étaient pas impactées dans leur corps. Et puis Tsé-Si, donc c'était, je crois, une enfant à la fois très jolie, c'est comme ça qu'elle a été choisie à la cour, et très intelligente. Et elle a bénéficié effectivement d'une éducation qui lui a permis, quand elle était la concubine préférée de l'empereur Xianfeng, et puis la mère de l'enfant impérial, de jouer un rôle intellectuel, j'allais dire pas forcément politique au début, mais elle était la personne. L'empereur Xianfeng n'était pas forcément très, disons, très courageux, très motivé, et elle lui lisait, il lui demandait de lire tous les rescrits, tous les textes, tous les rapports qui arrivaient de province, et c'est elle qui les lisait. Et finalement, elle a acquis comme ça une excellente connaissance du pays.
Mais elle devient la concubine de l'empereur. En quoi consiste ce rôle ? J'imagine qu'il y a des jeux de pouvoir. C'est un peu comme dans l'Empire ottoman, où il fallait absolument séduire l'empereur. Et puis pour grimper dans l'échelon des concubines, on passe de 6e concubine à la 2e, puis la préférée. Et puis, comment il choisissait les concubines qu'il allait honorer le soir ?
Ah, mais il y a tout un système administratif. D'abord, l'empereur, on le marie dès qu'il devient préadolescent, pratiquement. On le marie avec des filles de la meilleure société. Donc, il y a une épouse principale et puis peut-être une autre. Et ça n'empêche pas que tous les soirs, on lui apporte, oui, presque sur le dos d'un eunuque, on lui apporte la concubine qui va être sa compagne de la nuit. Et quand il naît un enfant, le problème, enfin tout le monde attend bien sûr un garçon, mais le problème est que ce petit garçon reste vivant. Alors, on raconte des histoires épouvantables, vraies ou pas vraies, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais quand il y a un garçon, il faut que la mère soit extrêmement prudente, parce qu'effectivement, pour réussir au harem, il faut être la mère du futur empereur. Donc, ça enlève tout sentiment de moralité. On fait n'importe quoi pour
que garder la place.
C'est mon fils qui sera empereur, .. comme on dit. Oui.
Alors, Tsé-Si devient impératrice, on l'a dit, en 1861, dans le cadre d'une régence pour son fils. Quel est son pouvoir, finalement ? C'est un pouvoir total ou au contraire très encadré ?
Alors, théoriquement, c'est très encadré, puisqu'il y a, comme vous le savez, des ministres et toutes sortes de contre-pouvoirs. Simplement, Tsé-Si est une personne très habile. Elle a parfaitement compris que son pays est en état de difficulté. Donc, elle va essayer à la fois de protéger son pays, et puis elle se rend compte que le système impérial, je pense que c'est vraiment une femme qui a une grande intelligence, elle se rend compte que le système impérial tel qu'il fonctionne à la cour n'est plus adapté au temps actuel. Simplement le changer, c'est compliqué. Et pour une femme, ça ne peut passer que par des manœuvres indirectes. Elle ne peut pas dire « je veux » ou « je ne veux pas ». Donc, eh bien, elle va se débarrasser plus ou moins brutalement des personnes qui l'embêtent.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'était une despote ? Elle aimait le pouvoir, visiblement. Elle avait soif de régner.
Oui, elle aimait certainement le pouvoir. Maintenant, il faut relativiser. Vous avez très bien parlé tout à l'heure à propos des supplices. Il faut tout replacer dans le contexte de la violence de l'époque. Ce sont des sociétés violentes. D'ailleurs, la nôtre n'était pas non plus tellement douce, si vous prenez ce qui s'est passé chez nous au XIXe siècle. Donc, la condamnation à mort est courante. Donc, elle a fait couper les têtes des gens qui s'opposaient directement à elle. Mais, de mon point de vue, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas quelqu'un qui va torturer inutilement ou tuer inutilement, sauf quand elle est furieuse.
Vous avez expliqué dans une émission que j'ai présentée, Si les murs de la cité interdite pouvaient parler, qu'une expertise des os de son neveu, Guangzhou, avait révélé qu'il avait bien été empoisonné à l'arsenic. Alors, c'est quand même, elle éliminait tous ceux... c'est-à-dire, c'était son héritier en plus, c'est incompréhensible qu'elle l'ait tué.
Mais je pense que, arrivée dans la deuxième période de sa vie, elle est dans un système qui est un système strictement de pouvoir, il n'y a plus de sentiments. Et elle avait aussi cette obsession que nous avons tous, c'est essayer de ne pas mourir, et elle avait une rage à l'idée qu'elle allait mourir, parce que quand même elle vieillissait, et elle était confrontée à la mort, et ça se mélangeait avec son sens du pouvoir, et elle n'avait aucune sympathie pour ce jeune Guangxu, qu'elle trouvait idiot, mais elle en était responsable. C'est elle qui l'avait beaucoup envoyé chez les belles dames des maisons de plaisir, pour que justement il n'ait
Il s'intéresse moins au pouvoir. Oui.
Il s'intéresse moins au pouvoir et puis après il en est tombé malade, donc c'était parfait.
Ceci a quand même fait beaucoup de choses et a notamment contribué à moderniser la Chine. Est-ce qu'elle avait une certaine vision pour l'Empire au-delà de son désir de régner sans partage ?
Moi je pense qu'elle avait une vision. Le problème c'était que c'est une jeune femme au début qui est tout le temps... Enfin, vous connaissez, et vous l'avez très bien expliqué, ce contexte de l'enfermement des femmes. Donc c'est quelqu'un... et qui commence à voir le monde à partir du moment où le monde détruit la Chine, si on veut. Alors, elle l'a modernisé, elle s'est rendue compte qu'il fallait une marine, par exemple. Et c'est elle qui fait lever des fonds. Mais il faut remettre ça aussi dans le contexte de la cour, avec tous les turiféraires qui sont autour, et qui lui expliquent qu'elle est plus importante que n'importe quoi dans le monde. Parce qu'eux-mêmes profitent, quand ceux-ci font des bêtises, c'est-à-dire détournent l'argent de la marine pour construire le palais d'été, etc. Derrière elle, il y a beaucoup de gens qui profitent de l'argent. Donc, à chaque fois qu'elle a une folie dans la tête, ils accentuent cette folie en disant « je vais en profiter pour m'en mettre plein les poches ».
Mais le bilan de son règne est-il vraiment négatif ? Ou est-ce qu'elle a... Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas vu les révoltes, elle n'a pas vu les rébellions dans le pays,
Elle n'a pas vu. Alors là aussi, je la défendrais un peu. Je ne la défends pas vraiment comme la défendent certains auteurs qui disent « Ah mais c'était une femme extraordinaire ». Je pense que c'est une femme extraordinaire, mais enfermée dans son monde. La révolte des Taiping, je pense qu'elle n'a pas vraiment vu l'ampleur parce que ça se passe dans la partie sud de la Chine. Donc elle est au nord, elle est à Pékin. Elle est enfermée dans le palais. Elle n'a pas idée de la dévastation. Il y a toute une région.
Elle voyageait jamais.
Elle, non. Elle allait autour du palais.
Elle n'a jamais quitté le palais.
Non, mais d'abord, quand on est empereur, on quitte très peu le palais. On dirige, vous savez, selon le principe taoïste chinois très ancien, donc du début de l'Empire, l'empereur, il ne bouge pas, il pense le monde. Et c'est l'influx de sa pensée qui se transmet à ses ministres, et ce sont eux qui agissent. Donc elle est restée chez elle.
Et pour finir, quelle image elle a aujourd'hui en Chine ? C'est quelqu'un qui est considéré comme un despote sanguinaire ou plutôt comme une impératrice moderne ? Quel souvenir elle laisse ?
Alors, dans la Chine actuelle, je ne saurais pas vous le dire parce que ça fait 5 ans que je ne suis pas allée en Chine.
Oui, mais il y a la Chine il y a 5 ans, on va dire.
Voilà. Et je pense que comme tous les héros anciens de la Chine, elle reprend du pouvoir. C'est-à-dire que les Chinois ont une approche des héros que nous, nous trouvons peut-être étrange, mais qui est d'une grande intelligence sociale. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que nul être humain n'est parfait. Donc, il n'y a pas de héros qui est un symptôme, ou alors si, il y a les taoïstes,
les grands penseurs.
Oui, mais alors Mao, c'est typique, vous avez raison de parler Mao. Mao, c'est quand même un type épouvantable qui a tué
des millions de gens, qui
sentaient très mauvais, qui se lavaient dans les femmes, disait-il. Bon, c'est quand même pas un type recommandable. Et malgré cela, c'est un héros parce que la force était avec lui. Enfin, là, c'est mon côté guerre des étoiles, mais et il avait la force. Et ce que l'on pense, quand vous voyez des statues, puisque les Chinois ont pris chez nous le goût d'ériger des statues, qu'est-ce qui est mis en valeur et dans tous ces héros, tous ces généraux, par exemple, qui sont devenus les guides touristiques disent que ce sont des saints. En fait, ce ne sont pas des saints comme des saints chrétiens. Ce sont des saints dans la mesure où ce sont des êtres puissants et qui, avec cette puissance, peuvent soit calmer, soit soulever le peuple au bon moment pour faire avancer la société, si vous voulez.
Mais merci beaucoup, Daniel Elisseïev, d'être venu avec nous sur cette impératrice assez méconnue en France et qui a régné sans partage en Chine. Je rappelle la biographie que vous lui consacrez. Ceci, ça s'écrit Cixi, hein, pour si vous demandez.
C'est la, oui, ceci,
c'est la transcription actuelle.
Oui, actuelle, oui. Impératrice de Chine qui est disponible évidemment chez Perrin.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en n'hésitant pas à improviser. C'est Clémentine Portier-Kaldenbach. Et Clémentine, si Martin Luther King a improvisé son célèbre discours, lui aussi, il pouvait s'appuyer sur un homme et pas n'importe qui, un certain Bayard. Alors ce n'était pas le chevalier Bayard sans peur et sans reproche, c'était Bayard Rustin, le mentor de Martin Luther King.
Bayard Rustin, c'est vraiment l'homme de l'ombre, noir, homosexuel, conseiller politique de Martin Luther King. Il a joué un rôle essentiel dans l'organisation des associations de lutte pour les droits civiques dans les années 60 aux États-Unis. Alors, c'est vrai que cet homme était beaucoup plus un organisateur, c'était pas un leader, mais indéniablement, c'est son homosexualité qui l'a empêché de prendre une place méritée au panthéon des grands leaders afro-américains. Parce que, est-ce que vous aviez déjà entendu
ce
nom-là ?
Jamais.
Et pourtant, vous allez voir, il a joué un rôle majeur. Alors, il est né, ce monsieur, le 17 mars 1912, en Pennsylvanie. Sa mère avait 16 ou 17 ans quand elle lui a donné naissance, donc on lui a fait croire que c'était sa sœur. Donc, en gros, il est élevé par ses grands-parents, essentiellement par sa grand-mère, qui lui enseigne les valeurs Quaker. Et les valeurs Quaker, c'est essentiellement la non-violence. Et c'est aussi le principe fondamental selon lequel il n'existe qu'une seule famille humaine et que tous ses membres sont égaux. Alors, adolescent, on ne pense pas parti pour faire une carrière de mentor politique. Il a plutôt une sensibilité artistique. Il écrit des poèmes, il aime chanter. Enfin, il fait quand même partie de l'équipe de foot du lycée. Et il semblerait, vrai ou faux, c'est la légende autour de Bayard Rustin, il aurait fait son premier sit-in dans un restaurant qui servait ses copains, ses coéquipiers de l'équipe de foot blanc et pas lui. Alors, très indigné, il commence à militer pour les droits des jeunes noirs et ce qui fait qu'il entre chez les jeunes communistes. Parce qu'à l'époque, c'est le seul endroit où on milite pour les droits des noirs américains, c'est chez les communistes. Donc il rentre chez eux, il y fera une incursion assez brève, il touche un petit peu à la comédie musicale professionnellement. Et puis, sans surprise, quand vient la guerre, qu'est-ce qu'il fait Bayard Rustin? Ben non, au contraire, il a été élevé par une grand-mère Quaker qui lui a inculqué. Exactement, il est pacifiste.
Il faut défendre nos valeurs quand même.
En 44, il a 32 ans. Alors, comme il est pacifiste, souvenez-vous de Louis de Coin, le grand pacifiste dont je vous ai raconté l'histoire, qui avait fait des tas de séjours en prison. Et ben, Bayard Rustin, il est condamné à 3 ans de prison comme objecteur de conscience. Il connaissait déjà la ségrégation à l'extérieur, il la découvre en prison. Et comme militant anti-ségrégationniste, comme notre Louis de Coin français, il fera d'ailleurs plusieurs séjours en en prison. Une fois libéré, il s'engage dans une organisation militant pour la paix et la non-violence qu'il envoie se former en Europe, en Afrique et en Inde surtout. En Inde parce qu'on est alors en 48, le Mahatma Gandhi est mort depuis un an, mais il va là-bas et ses suiveurs lui enseignent ce que c'est que la méthode de militantisme politique non-violent. Et quand il revient aux États-Unis, il déclare « Nous avons besoin dans chaque communauté d'un groupe de fauteurs de troubles angéliques. » Donc il faut à la fois militer mais refuser la violence. Alors le malheureux Bayard Rustin, en janvier 53, il prononce un discours à Pasadena en Californie sur l'égalité des droits et il est arrêté pour conduite obscène et vagabondage. Il est pris en plein acte sexuel avec un homme blanc dans une voiture.
Oh
ah, ça vous parle, oui.
Pourquoi vous nous avez parlé.
Non, c'est pas ça. Non, vous ne nous parliez pas. Excusez-moi, je confonds. Vous avez parlé de votre fils qui avait vomi dans la voiture. Bon, alors, ils en passent des choses dans les voitures.
Trop le lien avec le fait de copuler avec un homme noir dans une voiture.
Non, mais ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Bon, oublions cette parenthèse. Bon, mais en tout cas, à l'époque, l'homosexualité constitue un crime dans tous les États américains et Rustin est condamné à 60 jours de prison pour avoir été pris dans sa voiture en train de faire des galipettes avec un blanc. Alors, après cette arrestation...
C'est le fait qu'il se soit avec un blanc ou le fait...
C'est les deux, mon capitaine, deux, je pense.
Circonstances
il va perdre à cause de ça, il perd ses responsabilités au sein du Congrès pour l'égalité raciale qu'il avait créé lui-même. Hein. Et une mésaventure du même genre va lui arriver quelques années plus tard et quand il est devenu le mentor de Luther King, qu'il a rencontré alors que Luther King avait 25 ans, ils ont milité ensemble dans l'histoire du boycott des bus, vous savez, à la suite de l'affaire Rosa Parks. Alors, et ça, c'est en 55-56. Et ils organisent d'ailleurs déjà, Bayard Rustin, une marche sur Washington. Give us the ballot, donnez-nous le droit de vote. Et ils travaillaient sur un projet de marche à Los Angeles. On est en 60. Mais c'est un leader noir, un élu démocrate afro-américain qui menace Luther King, qui lui dit « Soit Rustin s'en va ». Soit je fais courir le bruit que vous avez une histoire ensemble, ce qui est quand même abject.
Hein.
Il l'a fait chanter, mais King a eu peur. Il a poussé Bayard Rustin à la démission. Rustin a dû quitter le mouvement de la réconciliation. Et donc, quand je vous parlais de cette célèbre marche sur Washington qu'il a organisée, il a organisé ça dans l'ombre complète parce qu'il était tricard pour son homosexualité dans son mouvement. Mais enfin, c'est lui qui a accompagné, structuré, unifié tous les mouvements afro-américains des États-Unis. Comment croyez-vous, sans réseaux sociaux, sans téléphone portable, etc., comment est-ce qu'on fait venir 250 000 militants de tout le pays et qui se rendent à Washington? Ça, c'est Bayard Rustin. 2200 bus, 40 trains, des bénévoles qui distribuent 80 000 paniers repas, 10 000 litres d'eau. C'est le plus grand rassemblement politique que Washington ait jamais connu. Et derrière ça, il y a Bayard Rustin. Et le retentissement international de cette marche contraindra le gouvernement américain à adopter les Civil Rights Acts de 64 et 65. Alors ce Bayard Rustin, il est longtemps resté dans l'ombre de Luther King, mais il commence à être reconnu aujourd'hui comme l'une des plus grandes figures du mouvement des droits civiques aux États-Unis, et plus encore parce que les historiens se penchent désormais sur le rôle qu'il a joué dans les années 80 pour la reconnaissance des droits des LGBT. Il est mort le 24 août 1987 à 75 ans et en 2013, Barack Obama lui a remis à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté.
Merci beaucoup Clémentine.
Vous restez avec nous Clémentine pour le moment qui est normalement rieur de notre émission, mais malheureusement des événements graves. Mon Dieu.
Non, je ne peux pas le faire.
J'ai 5 points d'avance.
Stéphane va démarrer pour les raisons que je vous exposerai dans quelques instants. Avec 5 points de retard exceptionnellement. Restez avec nous, c'est normal.
L'arbitraire. Non, hey, je prends pour l'impératrice Tsotsi.
C'est la justice. A tout de suite.
Historiquement vôtre.
L'heure du quiz a sonné. Normalement, on apprend et on rigole. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de rire. Car des événements terribles sont intervenus vendredi dernier. On a essayé de me faire passer pour une chèvre. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Je m'adresse là à la régie. Ça m'a fait croire que ce que je disais était vrai alors que c'était faux. Et ça a abouti à un micmac qui fait que j'ai retiré des points. J'ai retranché des points à Stéphane Bern qui était complice de cette manigance.
Mais non, j'ai pas compris.
Stéphane, vous démarrez le quiz avec 5 points de moins. 5 points en moins. C'est parti. Essayez de vous rattraper. Ne boudez pas.
Ne vous dites pas parce qu'il y a des bonnes réponses qui peuvent valoir 5 points.
Jouons à Bertrand Bialat. Alors, normalement, on termine ce quiz en apothéose, mais là, nous allons le commencer en apothéose. Le mot apothéose est issu du grec ancien, Stéphane. Dans la Rome antique, ça désignait un rite funéraire particulièrement honorifique. Il consistait, entre autres, à prévoir au-dessus du bûcher funèbre un lâcher d'aigle. Vrai ou faux ?
D'aigle ?
Je crois pas, non. J'ai jamais entendu ça.
Vous n'avez jamais entendu ça ?
Non, jamais.
Dans tous les secrets d'histoire, vous n'avez jamais. Donc ça n'existe pas.
J'ai pas dit que ça n'existait pas.
Vous répondez en tout cas ?
Je dis que c'est faux.
Vous avez perdu.
La remontada s'annonce compliquée, Stéphane. Hein ? Là, c'est
vous
vrai.
Vous m'avez pas beaucoup aidé non plus. Hein.
Bah écoutez...
J'en connais d'autres qui sont.
On a compris.
Des noms.
C'est vrai.
Nous voulons
c'est
des noms.
Vrai. L'aigle accompagnait l'âme du défunt Jules César, par exemple, a reçu l'apothéose. Peut-être, Stéphane, que vous devriez prendre vos dispositions pour prévoir à tirons gardés un lâcher de poule.
Il aura ses poules.
Les poules seront. Et puis on pourra faire un bal trap.
Mais ça va pas, vous tirez sur les animaux.
Non, ça vole pas les poules.
Pour vous accompagner, ça saute.
Elles peuvent voler.
Elles peuvent voler, bien sûr. Ça vole pas, espèce d'andouille. 5 points en moins. 5 points en moins pour Clémentine. Égalité. Voilà.
Andouille.
Traité, vous avez déjà entendu quelqu'un traiter Julien Lepers d'andouille pendant Question pour un champion ? Bon alors,
non, pourtant...
reprenons-nous. Alors, question numéro 2, Clémentine. À 19 ans, Lady Diana se marie avec le prince Charles de Galles en la cathédrale de Saint-Paul. Est-ce que Camilla Parker Bowles y était ?
Ah !
Ne regardez pas Stéphane, interdiction.
Ah, est-ce qu'elle y était ? Oh, ça a dû être dur à avaler, hein. Bah, je dirais oui. Oui, oui. Oui.
Vous avez gagné.
Attention,
c'est elle qui l'avait encouragée.
Ouais. Ah, elle y était, elle y était avec son mari.
Marie, bien sûr. En jeu
et en plus, si elle n'y avait pas été, ça aurait fait des gorges chaudes, non ? Non ? Alors que le fait qu'elle y soit,
c'est
banalisé un peu le...
Elle a épousé Andrew en disant, de toute façon, je t'épouserai jamais et toi, tu devrais épouser...
Ah oui.
Lady Diana.
C'était
Spencer.
Clair en fait. Il y avait pas
clair,
de...
bien sûr.
Alors normalement, ça aurait dû se passer à l'abbaye de Westminster,
ouais,
Stéphane.
Mais il y avait trop d'invités.
Ça s'est finalement déroulé à Saint-Paul et aussi pour une meilleure procession des futurs mariés dans les rues de Londres. Nous sommes, c'est la première fois de l'histoire que ça arrive dans ce quiz, moins 4 à moins 5. Dire le niveau. Niveau culture historique des participants à ce quiz. Question numéro 3 pour vous,
je crois
Stéphane.
Que vous pouvez difficilement juger.
Je vous en prie, Stéphane. Je vous rappelle que moi, contrairement à vous, je mène mon quiz, qui s'appelle La lutte finale en fin d'émission. Le premier sang est un roman de David Morrell, un auteur canadien. Adapté au cinéma, ça donnera la fameuse série des films Rambo. Comment l'auteur a-t-il trouvé le nom Rambo ? Grâce à des pommes ? Grâce à des chocolats ? Ou grâce à une marque d'aspirateur ? Voilà une question historique, Stéphane, et je dirais à votre mesure.
Ah, elle est géniale, cette question.
Des pommes Rambo ?
Moi, je vois plutôt l'aspirateur, un genre tornado,
il
détruit
pas,
tout sur son passage.
Oui, aspirateur, oui.
Aspirateur
plus,
Rambo.
Parce que j'ai compris que plus c'était crétin, plus ça marchait.
Oui, mais Stéphane, je sais que vous avez plusieurs femmes de ménage qui passent l'aspirateur. Vous n'avez pas mis l'aspirateur entre vos mains depuis peu.
Oui.
Dites-moi, Stéphane, vous êtes sûr de votre réponse ? C'est Rambo. C'est l'aspirateur.
Vous avez encore perdu.
C'était les chocolats.
Ça devient très difficile. Ce n'était pas les chocolats.
Les pommes.
C'est
les pommes.
Au début, pommes de Marc Rambo. En fait, sa femme, la femme de cet auteur, a un jour apporté des pommes du marché. L'auteur a pris le nom de ces pommes pour créer son héros Rambo. Et ça, vraiment, c'est une information qu'on n'avait pas.
Non.
Qui, certes, ne nous avance pas beaucoup, mais qu'on ne connaissait pas. Question numéro 4.
Là, vous aurez du mal avec votre cinquième question aujourd'hui. Hein.
Tout est possible, Stéphane. Jusqu'au bout, tout est possible, vous savez. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Marcel Proust, durant son adolescence, fréquenta les deux filles du président Félix Faure. Il a même été question durant un temps de mariage. Mais le décès quelque peu scandaleux, vous vous souvenez de Félix, a touché ses projets. Avec quelle fille Faure, Marcel, voulait-il convoiter en juste noces ? Antoinette, la cadette, ou Lucie, l'aînée ? Attention, si vous répondez
vous
bon, vous aurez des points, mais si vous répondez mal, alors vous perdrez un point.
C'est Lucie, je pense.
Vous avez...
Et c'est une excellente...
Perdu.
Mauvaise réponse, vous perdez un point,
mais
Clémentine.
Mais c'est pas celle-là qui était son amie avec qui il...
Et non, et non. Ouais.
Antoinette, c'est
Antoinette,
bien
Antoinette.
Sûr.
Mais oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'Antoinette...
Mais c'est Antoinette qui était son amie ou c'est l'autre ?
Mais c'est Antoinette qui était son amie. Ah, Antoinette lui a même appris à faire du caramel. Il adorait ses longs cils. Avec son ombrelle et son chapeau, elle était très attentive à ses discours et ses interminables tirades empruntées à Hugo, Musset, Baudelaire. Et paf, l'épectase vient tout gâcher. Heureusement, nous voici arrivés, par miracle, en question 5. Ah. Sorti en 2006,
par miracle.
Dans l'histoire du cinéma, le film américain ZXX tient un record. Détient même un record, on pourrait dire. Mais un record peu envié. Lequel ? Trois propositions. ZXX est le film le moins rentable de l'histoire du cinéma. ZXX fut le film où il y a eu le plus de blessés pendant les cascades. Ou ZXX fut le film où le plus d'animaux sont morts.
Deux.
C'est le film où il y a eu le plus de blessés dans les cascades. Vous êtes d'accord ?
Trois.
Un.
Oui, Clémentine Fortier, qu'elle t'attaque sur le fil. Elle remporte le quiz, Stéphane, alors qu'on vous tient deux doigts. De conjurer le sort en remportant ce quiz alors que vous êtes parti avec moins 5. Nos auditeurs sont vraiment mais suspendus à vos exploits et là, c'est une défaite. C'était le film ZXX. Vous n'avez pas ZXX dans votre, dans votre DVD tech? Bien sûr, ZXX tout au bout de la rangée de la bibliothèque. C'est le film le moins rentable du cinéma.
Il a coûté quand même
2 millions de dollars.
Ah oui.
Oui, pendant le tournage, un assistant est accusé de distribution de pornographie infantile. Un acteur est accusé de se droguer. Le bad buzz est énorme. Il est resté 6 jours à l'affiche dans un cinéma. Il fait 30 dollars de recettes.
Qu'est-ce que ça racontait, ZXX ?
Je n'ai pas ces informations. Mais je regarderai ZXX dès ce soir et je vous en raconterai le synopsis, les grandes lignes.
J'y compte bien.
Bravo, en tout cas, Clémentine Portier-Kettenbach.
Bravo, Clémentine.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie de Mathieu Noël d'Europe 1, à ne pas confondre avec son homonyme Bling Bling, Mathieu Noël de Saint-Tropez, capable de tenir des propos comme...
Et alors les pouilles, ça t'a emballé vraiment ?
Ça m'a plu gastronomiquement parlant.
Ouais, t'as pas eu trop chaud ?
Non. On décapote. Hein.
Oui, Stéphane, surtout ne pas confondre. Hein. C'est d'ailleurs notre thématique cet après-midi.
Oui, c'est pas moi. Leur nom prête à confusion. Après la chinoise, c'est aussi l'impératrice, qui n'est pas Sissi l'impératrice, je vous raconte Simone Veil. L'autre, avec un W, la philosophe, pas celle qui a fait l'IVG.
De
votre côté, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai. D'une star à 100% siliconée.
Oh, c'est une légende urbaine, je ne suis pas allé vérifier. Oui, cet après-midi, je reviens sur la destinée érotico-tragique de Lolo Ferrari. Actrice française, comme l'indique pudiquement sa fiche Wikipédia, nous essaierons d'aller un peu plus loin, notamment là où ça commence à intéresser Olivier Pouls. En attendant, je veux voir toutes les mains sur la table.
Sans oublier justement les mains de nos chroniqueurs avec David Castel-Lopez qui nous raconte les origines du bidet.
Oui,
du bidet.
Voilà. C'est, tout le monde voit ce que c'est, je pense. Peut-être les millénials n'y voient pas.
Ils ne voient pas.
Peut-être.
Comme le fax, ils savent plus ce que c'est le fax.
Un bidet. Et puis avec nous, Olivier Pouls qui va nous servir des cornichons.
Les cornichons, d'où viennent-ils ? Comment les prépare-t-on ? Je vous donnerai une petite recette, c'est pas très difficile.
Ah bah ils sont
J'ouvrirai un débat, à mon avis, assez intéressant.
C'est un débat qui sera potentiellement houleux
Peut-être.
Pour ou contre le cornichon, tout simplement.
Certaines variétés de cornichons dans certaines préparations.
Certaines préparations.
Ouais. Ah. Je vous laisse pour tout à l'heure.
On réfléchit. Et puis, la lutte finale, c'est le quiz qui nous départagera en fin d'émission, sachant que je démarrerai, évidemment, avec un point d'avance suite à l'infamie qui a eu lieu vendredi dernier. Nous y reviendrons. Et oui Stéphane, oui. Mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Attention, une grande dame peut en cacher une autre. Ces deux-là ont partagé le même prénom, quasiment le même nom, et même certaines convictions. Si la première a laissé son nom dans l'histoire, notamment pour avoir œuvré à la légalisation de l'avortement, c'est l'autre, plus méconnue, qu'on met en avant aujourd'hui. Stéphane Bern, avec un B, nous raconte Simone Veil avec un W, la philosophe qui a passé sa vie à défendre les opprimés.
Nous sommes en décembre 1934, tout au bout de la rue de Courbe, dans le 15e arrondissement de Paris. Les ouvriers de l'usine Alstom s'activent sur leurs machines. Le brouhaha est assourdissant, les gestes sont répétitifs. Des perles de sueur dégoulinent sur les fronts. La fatigue se lit sur les visages. Il fait froid et le local est mal isolé. Mais ces femmes et ces hommes tiennent le coup, car ce qu'ils redoutent plus que tout, c'est le chômage, qui sévit durement dans la France des années 30, accablée par la crise économique. Tous les soirs, après sa dure journée de labeur, une jeune employée de 25 ans répertorie dans son journal le nombre de pièces fabriquées.
Impossible de deviner derrière ses grosses lunettes rondes et ses mains déjà abîmées que se cache en réalité une intellectuelle bourgeoise brillamment diplômée. Mais que fait-elle là ? L'agrégation de philosophie mène rarement à la vie ouvrière. Son professeur Alain la surnomme la Martienne. Même si son nom peut vous sembler familier, il est vrai qu'elle ne ressemble à personne. Elle s'appelle Simone Veil, avec un W, peut-être pour une double dose de combativité. Je savais bien qu'il y avait beaucoup de malheur dans le monde. J'en étais obsédé, avouera-t-elle un jour. Le climat familial dans lequel elle grandit est favorable à cette générosité démesurée. Simone Veil naît à Paris en février 1909 dans une famille de juifs libéraux. Élevée dans un agnosticisme complet, elle évolue dans une ambiance chaleureuse tout en musique et en art où la culture tient une place importante, centrale même. Voilà un bagage qui lui permet d'excéder à l'école. En 1925, elle entre en Hippocagne au lycée Henri IV. L'un de ses professeurs la fascine, c'est le philosophe Alain, qui devient vite son maître à penser. Il bouleverse sa vision du monde et fait naître en elle un esprit de révolte contre l'ordre social. Il lui apprend aussi qu'il faut toujours raisonner sur des cas concrets. Simone Veil trouve sa quête, la vérité, avec un grand V, et le moyen pour l'atteindre, expérimenter. La suite de son parcours scolaire prouve bien que la philo, c'est son truc. À 19 ans, Simone intègre Normale Sup, puis rédige en Sorbonne un mémoire intitulé « Science et perception dans Descartes ». 3 ans plus tard, elle est reçue 7e à l'agrégation de philosophie. Alors qu'elle est professeure au lycée du Puy-en-Velay, la philosophe s'engage à l'extrême gauche. Sa compassion pour les exploités est illimitée. À la Bourse du Travail, Simone Veil donne gratuitement des cours du soir aux ouvriers du coin et veille à ce qu'ils lisent en leur achetant donc des livres. Elle signe de nombreux articles dans des revues syndicalistes révolutionnaires comme La Révolution prolétarienne. À l'hiver 1932, Simone est en tête de manif avec les mineurs qui se soulèvent contre le chômage et la baisse des salaires. Par solidarité avec les chômeurs du Puy, elle vit comme eux avec 5 francs par jour. Tout le reste est reversé à la Caisse de solidarité des mineurs. En 1934, Simone Veil écrit « Réflexion sur les causes de la liberté, de l'oppression sociale ». Mais comment parler de ce qu'on ne connaît pas ? À 25 ans, elle suspend sa carrière d'enseignante pour travailler volontairement comme ouvrière à la chaîne chez Alstom puis chez Renault. Étant en usine confondue aux yeux de tous et à mes propres yeux avec la masse anonyme, le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme, écrit-elle dans La Condition ouvrière, témoignage de son expérience. Simone vit les maux de tête quotidiens, la brutalité de la hiérarchie et l'aliénation par le travail. Un jour, je la cite, je me suis rendu compte que quelques semaines de cette existence avaient presque suffi à me transformer en bête de somme docile et que le dimanche seulement je reprenais un peu conscience de moi-même. Son congé terminé, elle met fin à cette expérience et revient au professorat. En Italie, à Assise, Simone Veil, avec un W, je le rappelle pour ceux qui prennent le récit en cours de route, fait une rencontre décisive, celle du Christ. Dans l'église Santa Maria degli Angeli, où Saint François venait se recueillir, elle raconte que quelque chose de plus fort qu'elle l'a obligée pour la première fois de sa vie à se mettre à genoux. Comme le dit Paul Valéry, Simone Veil est tombée vers le haut. Sa chute inversée l'a amenée directement au Christ. Elle n'a pas croisé l'Église en chemin, car Simone Veil prône la foi à l'état pur, débarrassée du carcan de l'institution, ce qui est plutôt logique pour l'anti-autoritaire qu'elle est. Redevenue professeure de philosophie et malgré tout l'intérêt qu'elle prend à enseigner, elle comprend qu'elle ne pouvait s'empêcher de participer moralement à la guerre d'Espagne. Les élèves, c'est bien, les opprimés, c'est mieux. C'est eux qu'elle veut défendre. Aussi, n'hésite-t-elle pas à partir sur place, fusil à la main, lorsqu'éclate la guerre civile. En août 1936, Simone rejoint une colonne de miliciens espagnols au bord de l'Ebre, jusqu'à ce qu'un malencontreux accident vienne interrompre son expérience anarchiste. Très myope, Simone Veil met le pied dans une bassine d'huile bouillante. Aïe, ouïe, pas besoin de vous dire que ça fait vraiment très mal.
On l'a
Mais
senti à votre
fait
aïe, oui, d'ailleurs.
Encore plus mal, c'est lorsqu'elle apprend l'entrée des Allemands à Prague en mars 1939. Jusque-là, pacifiste résolu, la philosophe change d'avis et appelle à la lutte armée contre Hitler. En juin 1940, Simone Veil participe à des actions de résistance à Marseille, où elle s'est réfugiée avec sa famille. L'été suivant, elle est en Ardèche et travaille dans la ferme de son ami, l'agriculteur et philosophe Gustave Thibon. Son esprit militant ne dort jamais, pas même la nuit. Elle refuse le confort de s'allonger dans un lit et se couche à même le sol pour se nourrir. Simone cueille des fruits sauvages pour pouvoir distribuer ses tickets de rationnement à ceux qui en ont besoin. Entre deux élans de charité, Simone Veil noircit des pages et des pages dans son cahier. Action et pensée sont toujours liées. Elle donne naissance à un chef-d'œuvre, la pesanteur et la grâce. Elle y parle de la beauté qu'elle définit comme l'harmonie du hasard et du bien. En 1942, depuis New York où elle a accompagné ses parents, Simone est trop loin pour faire le bien. Son instinct la pousse à être au plus près des combats. Alors, elle rejoint l'Angleterre dans le but de fonder un corps d'infirmières de première ligne. Son projet est jugé irréalisable. En novembre, elle écrit dans l'Enracinement qu'un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité. Au même moment, on lui refuse de rejoindre la résistance intérieure. N'ayant pu accorder sa pensée à son action, elle dépérit. Quelques mois plus tard, au sanatorium d'Ashford, où elle soigne sa tuberculose, Simone Veil cesse de s'alimenter. « Le malheur répandu sur la surface du globe terrestre m'obsède et m'accable », confie-t-elle. Alors, si elle ne peut pas être exposée à ce malheur, elle préfère disparaître. Simone Veil meurt, à 34 ans seulement. « On est ce qu'on vit », écrit un jour Hannah Arendt, qui, je le précise, a été jusqu'à peu la seule femme à être enseignée en cours de philosophie au lycée. Simone Veil, avec un W, illustre son propos à merveille. Et désormais, étudiée au lycée, elle l'est aussi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Simone Veil avec un W, nous sommes avec un invité qui la connaît bien, Stéphane, le philosophe Robert Chenavier.
Bonjour Robert Chenavier, vous êtes docteur en philosophie et aussi président de l'Association pour l'étude de la pensée de Simone Veil. Si on devait résumer pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'est la pensée de Simone Veil justement ?
Eh bien, Simone Veil, il faut le dire, est avant tout une philosophe. Mais c'est vrai, sa pensée est difficile à définir dans des catégories philosophiques traditionnelles, celles du matérialisme ou de l'idéalisme, par exemple. Parce que, d'un côté, pour aller vite, elle dit que rien ne surpasse Platon. Mais Platon n'a dit que la moitié, c'est-à-dire qu'elle pense qu'il manque une dimension qui est celle du travail, considérée comme une valeur humaine, qui a été méconnue par les Grecs d'ailleurs, ce qui explique une autre présence, avec celle de Platon, une autre présence constante chez elle, qui est celle de Marx. Mais Marx n'a pas été cohérent dans son matérialisme, selon elle. C'est-à-dire que, il n'a pas reconnu la réalité de l'esprit et du surnaturel. Ce qui fait que pour définir le projet philosophique de Simone Veil, on pourrait dire qu'elle s'est efforcée finalement de réduire l'écart entre un Platon dont la théorie de la connaissance aurait intégré le travail et un Marx qui aurait développé les éléments de son matérialisme en réservant une place au surnaturel.
Elle considère, on l'a dit, Alain comme son maître à penser, c'est lui qui l'amène à la philosophie.
Oui.
Il faut peut-être rappeler, Alain, c'était une figure à l'époque de l'entre-deux-guerres déjà.
Oui.
Qu'est-ce qui séduit Simone Veil chez lui particulièrement ?
Eh bien, elle a suivi ses cours pendant 3 ans en Cagne au lycée Henri IV, entre 1925 et 1928, et elle les a même suivis après son intégration à l'école normale supérieure. Donc l'enseignement d'Alain était vraiment une nourriture, et c'est là que commence, on peut dire, sa philosophie. Et Simone Veil est toujours restée sensible chez Alain à sa philosophie de la perception, d'une part. Bon, c'était le point de départ des cours d'Alain dans sa classe. Elle juge que la pensée d'Alain sur le travail et la technique sont trop sommaires. Elle dit un peu méchamment qu'il en est resté à la scie et au rabot, alors qu'il s'agit de penser le machinisme. La volonté est beaucoup plus importante dans la morale d'Alain que chez Simone Veil. Chez Simone Veil, c'est plutôt la notion d'attention qui est primordiale. Et sur un plan politique, et là alors l'influence d'Alain a été déterminante, elle hérite de l'idée du citoyen contre les pouvoirs. Mais pour elle, il s'agit surtout, au-delà du plan politique, de résoudre la question sociale. Et sur ce plan-là, elle est beaucoup plus radicale qu'Alain, parce qu'elle connaît beaucoup mieux les réalités sociales.
Mais alors justement, on sent que le sort des travailleurs la préoccupe énormément. Son premier essai philosophique s'appelle « Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale ». Elle dénonçait donc une certaine aliénation du travail à la chaîne, c'est ça ?
Oui, alors je dirais pas exactement dans la mesure où elle n'emploie pas le terme aliénation qui est propre à une philosophie plutôt d'inspiration hegelienne ou marxiste. Le grand mot pour elle, c'est le mot oppression. Donc la question de l'oppression est une question neuve. Et les causes de l'oppression tiennent pour elle à une situation sociale qui est tout à fait nouvelle. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller très vite, elle dit qu'au temps de l'atelier ou de la manufacture, c'est l'argent qui séparait en deux classes les propriétaires capitalistes et les ouvriers. Alors qu'elle voit bien que dans la grande industrie, les classes sont ceux qui disposent des machines et ceux dont la machine dispose. Donc on peut bien changer par une révolution la fonction de l'argent, mais le problème c'est comment peut-on transformer les propriétés sociales du machinisme pour qu'il ne soit pas cause de l'oppression. C'est un peu comme ça qu'on pourrait résumer en... Très schématique.
Mais Robert Chenavier, Simone Veil a ensuite écrit un autre grand essai qui fut publié à titre posthume, L'Enracinement. Elle y explique notamment que la notion, une notion qui d'ailleurs qui est très portée actuellement sur la scène publique, que la notion de droit est en réalité subordonnée à celle d'obligation, contrairement à ce que suggère la Constitution universelle des droits de l'homme. C'était son idéal d'une société, d'une certaine manière, que chaque individu ait davantage de devoirs envers les autres et soi-même que de droits.
Oui, c'est une partie difficile à comprendre. C'est tout le problème de l'enracinement. C'est-à-dire que, en fait, il faut que chaque individu, pour elle, ait des droits, mais toujours relatifs à des obligations. Ils le sont toujours. Pour elle, au-dessus, hein, j'insiste, c'est elle qui insiste, au-dessus des institutions destinées à protéger le droit, il faut en inventer d'autres. Parce que le droit, la personne, les valeurs démocratiques doivent être fondées sur le niveau supérieur de l'obligation. Mais toute la difficulté, c'est d'être dans une société dans laquelle, en suivant une obligation, un individu ne serait pas condamné à en abandonner une autre. Par exemple, parmi les besoins de l'âme, comme elle dit, il y a la vérité, et il y a aussi la liberté d'expression. Une liberté d'expression qui contredirait la vérité, ça ne peut pas faire une société juste. Mais une vérité qui s'imposerait ou qui prétendrait s'imposer sans la liberté d'expression, ce n'est pas une société juste non plus. Ce qui fait que toute la difficulté de comprendre Simone Veil, c'est qu'elle remplace le couple droit-personne par celui d'obligation-besoin de l'âme. Et c'est comme cela qu'il faut lire l'enracinement.
Vous avez publié un essai il y a quelques mois, Robert Chenavier, Simone Veil, une juive antisémite, éteindre les polémiques. Vous ouvrez votre propos en disant qu'elle a été considérée comme une philosophe brillante, mais qu'elle fut parfois péremptoire, voire injuste, dans ses jugements sur les juifs notamment. Est-ce que c'est pour cette raison qu'elle a peut-être été un peu laissée de côté en France? Elle divisait.
Oui, alors je précise bien, c'est important que mon livre publié chez Gallimard n'affirme pas, il questionne. Hein. Mm-hmm. C'est bien Simone Veil, une juive antisémite, point d'interrogation. Alors, est-ce que c'est en raison de ses positions sur les juifs et le judaïsme, entre guillemets, qu'elle a laissé, était laissée de côté en France? Je crois pas que ce soit la principale raison. C'est pas le point principal. Mais j'ai voulu quand même faire une mise au point durable sur le sujet parce qu'il y a une polémique effectivement ancienne et insistante qui poursuit la mémoire de Simone Veil à propos d'un antisémitisme présumé dont témoignerait sa pensée. Il me semble, mais ça fait l'objet d'une discussion, je ne veux pas fermer le problème. Son anti-hébraïsme, à mon avis, n'a pas grand-chose à voir avec l'antisémitisme parce qu'il se situe surtout sur un terrain religieux, c'est-à-dire la critique de l'hébraïsme de l'Ancien Testament. Alors, ce qui ne m'empêche pas d'examiner dans mon livre les textes les considérés comme les plus « antisémites », entre guillemets, par exemple, un texte qu'elle rédigea à Londres, en effet, sur le rapport d'une organisation de résistance à propos des bases d'un statut des minorités non chrétiennes étrangères. Alors, j'entends par là, effectivement, tenter de créer de la réflexion, mais d'éteindre les polémiques, si je puis dire.
On l'a dit dans le récit, Simone Veil commence tout juste à être intégrée au programme scolaire de terminale en philosophie. Comment on explique, selon vous, qu'elle n'y figurait pas jusqu'à présent ?
Je crois qu'il faut se rappeler que, en fait, il est vrai que dans chacun des milieux qu'elle a traversés, politiques, syndicaux, religieux, philosophiques, ses sympathies vont toujours avec une lucidité qui a déplu. Et sa vie, est, comme sa pensée, est un refus perpétuel d'identification, soit à une communauté, un parti ou l'Église, soit à son milieu, la bourgeoisie, soit à ses racines juives, et même une sorte de refus d'identification à sa féminité. Donc, selon les moments, selon les milieux de sa réception, Simone Veil a été récupérée ou rejetée par la droite, par une partie de la gauche. Chaque camp a prélevé et retenu ce qui lui convenait, finalement. Elle l'a amputé, si on peut dire, d'une partie de sa pensée et de sa vie. On l'amputait de sa prime jeunesse, qui était agnostique, qui était militante, ou on l'amputait de sa maturité spirituelle et mystique. Si bien que l'entrée tardive, en effet, de Simone Veil au programme des classes terminales, je crois, et des classes préparatoires, d'ailleurs, permettra, il me semble, de rattraper ce qu'il faut bien appeler un certain retard en France dans la reconnaissance scolaire et universitaire de quelqu'un qui est une grande philosophe. Je le pense ça, vraiment.
Merci beaucoup, Robert Chenavier, d'être venu avec nous sur le parcours admirable de cette philosophe qui voulait aider les autres jusqu'à y perdre la vie. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique des œuvres de Simone Veil chez Gallimard et que vous avez publié un essai dont Mathieu a parlé. Simone Veil, une juive antisémite, pour une interrogation, éteindre les polémiques. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Mathieu Noël et Stéphane Bern.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque des dames dont le nom prête à confusion. Après ceci, l'impératrice et Simone Veil, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une Lolo Ferrari à ne surtout pas confondre avec notre chère Laurence Ferrari.
Oh oui, ce serait fort inélégant, Stéphane, car la Lolo Ferrari dont je vous parle aujourd'hui n'a jamais eu de carte de presse et pour devenir célèbre, elle a choisi une autre voie que l'école de journalisme. Pionnière de l'hyper-siliconage, ma Lolo Ferrari me place dans une position très inconfortable cet après-midi, sachant qu'il me faut à tout prix éviter le piège qui consisterait à ce que tout dans ce portrait tourne autour d'un seul mot.
Nichon.
Merci David. Aujourd'hui, je me penche donc sur le destin brisé de Lolo Ferrari et pas du tout celui de Laurence Ferrari. L'histoire d'une femme un peu moins journaliste, un peu plus peroxydée et surtout beaucoup moins vivante. Car oui, Stéphane, Lolo Ferrari, figure emblématique du X français, nous a quittés il y a déjà longtemps maintenant, à seulement 37 ans. Pourtant, même si l'œuvre qu'elle nous a léguée est loin d'être impérissable, en fait elle a déjà péri, on garde tous dans un coin de notre tête l'image de Lolo Ferrari. Créature aux dimensions mammaires hors normes, puisque son tour de poitrine fut un jour mesuré à 1,80 m, soit plus grand que Stéphane Bern.
Oui, c'est vrai.
Chacun de ses seins pesait 2,8 kg. Pour en arriver là, elle avait enchaîné pas moins de 20 opérations de chirurgie esthétique. Elle était la seule femme au monde à pouvoir dire à la vendeuse de Princesse Tam Tam « Vous pouvez me trouver ça, mais en 130F ?» Lolo Ferrari naît Ève Valois le 9 février 1963 à Clermont-Ferrand d'une mère professeure de sport et d'un père ingénieur. « Si j'ai fait toutes ces opérations, c'est parce que ma mère ne m'aimait pas. C'est parce que j'étais malheureuse », déclara un jour notre Lolo Ferrari, pas encore Lolo, dans Marie-Claire. Après une scolarité relativement expéditive, Ève enchaîne les petits boulots. Elle travaille en discothèque à la Baule. C'est là qu'elle rencontre en 1988 son futur mari et manager, ancien chauffeur de taxi, un peu gérant d'hôtel, un peu concessionnaire automobile, et qui va donc devenir rapidement aussi un peu conseiller chirurgical, un peu pharmacien et un peu macro. Le couple habite d'abord Paris, puis s'installe sur la Côte d'Azur. Déménagement coûteux à Grasse qu'il faut bien financer, mais comment ? Eric cogite un peu, ah mais bien sûr, et si Ève se lançait dans la photo de charme ? Emballé, c'est pesé, Eric lance sa femme dans une folle tournée des boîtes de nuit afin de la faire connaître et de décrocher des contrats. Et là, ça ne mord pas, il faut changer le business plan. Alors Eric et Ève cogitent à nouveau. Stéphane, je vous laisse endosser le rôle de Lolo, je ferai Eric, le manager Marie Cochon. Ça vous va ?
Bah, je suis pas sûr d'y arriver.
Oui, super, on y va, allez-y.
Bon, j'ai une idée bébé, je vais subir 25 opérations chirurgicales pour changer radicalement mon physique et posséder le plus grand tour de poitrine du monde. Ça serait génial, non ?
Super idée, ma chérie. Change ton nom aussi, ce serait bien. Ève, ça fait un peu expert comptable frigide. On va t'appeler Lolo, comme les Robert, les Nichons, les Tchouches, les Nénés, les Miches.
Oh oui, mon chéri, c'est brillant. Et comme nom de scène, je prends Ferrari en hommage au nom de mon grand-père que j'aimais tant.
Ouais, comme la bagnole aussi, c'est bien Ferrari. C'est en 1990 que le chantier mammaire est officiellement lancé. Eric raconte. À la quatrième opération des seins, Lolo s'est fait poser la plus grosse prothèse existant sur le marché. Et elle voulait encore plus. Personne ne voulait s'embêter à faire ça, alors j'ai dessiné moi-même les plans. Puis je suis allé voir un spécialiste qui m'a fabriqué un moule avec un métal utilisé dans les tableaux de bord d'avion. Un prothésiste a mis du silicone pour en faire un ballon, puis on... on l'a rempli de liquide physiologique. Ensuite, il a fallu trouver un chirurgien pour implanter tout ça. Certains ont refusé, d'autres ont trouvé ça génial. Lolo aimait l'ambiance des cliniques, ça l'a sécurisé. Après ses interventions, Lolo recherche dans sa nouvelle poitrine la maternité qu'elle n'a pas eue, ni avec sa mère, ni avec les enfants, qui ne verront pas le jour. Elle est en quête inlassable d'amour, et contre toute attente, ses premiers fans seront les enfants. Elle devient la Chantal Goya des boobs, la Dorothée du...
Nichon.
Oui, bref. Essayons de rester chic, David, s'il vous plaît. En tout cas, c'est fou, les gamins adorent ces Robert. Ils la poursuivent dans la rue pour obtenir un autographe, les jeunes filles bourrent leur t-shirt de papier toilette à l'école pour lui ressembler. Il y aura aussi une tentative de percer au cinéma, mais ses débuts dans le film belge Camping Cosmos seront aussi ses adieux au cinéma traditionnel. À la télé, on la verra un temps dans Eurotrash, programme de Channel 4, et côté musique, car oui, hélas, il y a eu aussi un côté musique, Lolo nous gratifiera de deux chefs-d'œuvre, dont Set Me Free et le plus original Airbag Generation. Puis, à mesure que la quinzaine des réalisateurs s'éloigne, Lolo se concentre sur ses performances dans des boîtes à striptease, avant, oui David, oui, de se tourner progressivement vers les films de type pornographique. Au début, elle hésite, mais son mari, le brave Eric, toujours de bons conseils, insiste aussi.
Pourquoi ça vous dégoûte ?
Lui demande-t-il avec insistance. Une carrière insensée démarre alors, carrière dont le grand public connaît peu les coulisses macabres. Selon une amie de Lolo qui témoigne, ce qui rapportait le plus à son mari, c'était de la prostituer dans les galas, à raison de 10 000 à 12 000 balles la nuit, avec plusieurs hommes.
Elles a sucé.
Bah écoutez, ne soyez pas graveleux, Stéphane, j'en sais rien. D'autant que la descente aux enfers finit mal. Un soir de mars 2000, c'est le choc. Lolo est retrouvée morte à son domicile de Grasse par son mari. Les causes du décès, obscures. Le mari, louche. Les titres de la presse à scandale, élégants. Comme par exemple celui de Gala, je cite, « Lolo Ferrari, une légende évanouie, comme un ballon crevé ». Que s'est-il vraiment passé le soir de sa disparition ? Les enquêteurs soupçonnent Eric, le mari manager, sans grande surprise, rembobinons et revenons la dernière soirée de Lolo, ce 4 mars 2000. Ce soir-là, c'est l'anniversaire de son mari, justement. Oui mais non, Lolo passe la soirée en réalité avec son ex-amant, un policier monégasque dans un resto échangiste de la côte. C'est pas mal non plus, c'est vrai, David, j'avoue. Mais la soirée n'est pas des plus festives de leur côté. Lolo tousse beaucoup, elle tient à peine debout. L'ex-amant la raccompagne chez elle vers 23h. Le lendemain, Eric Vigne appelle la police en panique. Lolo est morte. Il raconte « Je l'ai aidée à se coucher la veille au soir car elle se sentait pas bien, elle toussait beaucoup. Elle avait pris des antibiotiques. Pour ne pas la déranger, je suis allé m'installer sur le canapé du salon. » Et oui Stéphane, les antibiotiques, c'est pas automatique, on l'avait dit pourtant. Le bon Eric va passer 13 mois en détention préventive, puis il sera lavé de tout soupçon en février 2007. Après avoir déclaré au juge, j'ai tenté à plusieurs reprises de la sauver, ma femme s'est suicidée et malheureusement cette fois-là je suis arrivé trop tard. L'autopsie révélera que Lolo a succombé à une surdose d'alcool, d'antidépresseurs et de somnifères. Creepy fun fact, Eric vit encore aujourd'hui dans la villa du couple, une maison décrépite aux volets écaillés où règne, dit un voisin, un désordre et une saleté indescriptibles. Si la justice a fermé le dossier, la presse, elle, continue de fouiner, de s'interroger. Dans un article, une psychologue évalue le discours du mari comme, je cite, « inauthentique et contradictoire, marqué par un sévère manque d'empathie ». La réponse d'Eric à cet article, deux points ouvrez les guillemets, « Écoutez, allez voir Lolo quand vous serez décédé comme elle, puis vous irez lui parler, d'accord ? Vous lui demanderez des détails et vous verrez que tout ce qui a été dit est faux ». Nous ferons ça, Stéphane, nous ferons ça. Moi, c'est même le premier truc que je ferai quand je mourrai. J'irai voir Lolo Ferrari pour obtenir des précisions sur cette histoire. En tout cas, il semble heureusement que la mode des seins siliconés soit en train de refluer. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est la femme qui a les plus gros seins du monde.
C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Non, Stéphane, en tout cas, à la lumière de ce récit, vous y réfléchirez désormais à deux fois avant de lancer au moment du passage d'antenne.
Punchline avec Lolo Ferrari.
Laurence Ferrari, Stéphane. Attention, c'est vraiment deux carrières très différentes.
Très différentes. Mais on aime beaucoup et on embrasse Laurence. Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour dont le nom prête à confusion.
Oui Stéphane, car c'est l'heure des cornichons. Aucune pique à l'attention de nos chroniqueurs, simplement le sujet du jour d'Olivier Pouls.
Moi, je vous raconte l'histoire des cornichons, je vous dis comment les préparer pour avoir toujours des beaux petits bocaux chez vous. Et j'ouvre un débat.
Un débat vous qui allez s'annonce voir. Houleux. Mais d'abord, David Castello-Lopez nous entraîne aux origines d'un objet du quotidien qui n'est plus tellement dans notre quotidien, le bidet.
J'ai grandi dans une famille où le bidet était obligatoire. C'est comme ça, il y a des bidets partout. Obligatoire à cause de mon père qui considérait que les appartements sans bidet, c'était vraiment des appartements de gros porcs. Et moi, j'avoue que je ne comprenais pas très bien parce que, disons que sans entrer dans les détails, je trouvais que c'était un peu redondant, le bidet. Voilà. Mais il n'empêche que c'était quelque chose qui faisait partie de mon existence. Et puis j'ai vu doucement les bidets disparaître, non seulement chez moi, mais aussi partout ailleurs. Au point, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, en France du moins, le bidet, il est devenu vintage. Il va peut-être revenir justement, comme toutes les choses vintage finissent par revenir, il suffira qu'un designer d'intérieur convainque quelques familles influentes que le bidet c'est important et le tour sera joué. Mais mon travail aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire si un jour le bidet existera à nouveau, c'est de vous dire depuis quand il existe. Eh bien, le bidet, il est né en France au XVIIe siècle, mais sous une forme légèrement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. C'était une bassine amovible qu'on mettait dans sa chambre, à côté du pot de chambre qui se trouvait également traditionnellement dans la chambre et dans lequel on faisait ses affaires. Le bidet, on se mettait à cheval dessus, ce qui est probablement l'origine du mot bidet, puisque bidet, en fait, c'est un mot ancien qui veut dire petit cheval. Et oui, dada sur mon bidet.
Dada sur mon bidet, son petit cheval.
D'accord. Le bidet, le cheval.
Quand il trotte, il fait des pèses. Ce n'est pas un meuble qui fait des pèses.
Oui, c'est ce que je me suis toujours dit. C'est-à-dire qu'un bidet, bon, à part s'il grince. Bon.
Et une fois qu'on était à cheval sur son bidet, eh bien, on rinçait. Que rinçait-on ? Que rinçait-on ? Eh bien, on rinçait d'une part dans le contexte des commissions, hein, que ce soit, comme disent les Américains, la numéro 1 ou la numéro 2. Et d'autre part, on rinçait pour les femmes dans le contexte de la prostitution et de la contraception. Car vous le savez, certaines ablutions rendent les grossesses moins probables. Voilà, c'est comme ça. Et c'est cette dernière utilisation du bidet qui a donné l'insulte. Raclure de bidet.
Ah oui,
raclure de bidet, vous voyez à présent ce qu'on entend par là. Les bidets de cette époque, ils étaient très jolis. C'était des meubles en bois dans lesquels on encastrait une bassine cintrée en porcelaine. Et ils étaient souvent aussi munis d'un couvercle qui existait dans la perspective de camoufler la fonction de l'objet quand on ne s'en servait pas, puisque, comme je vous l'ai dit, c'était dans les chambres à coucher, pas dans des endroits séparés. Et puis, petit à petit, à partir du 19e siècle, avec l'arrivée de la plomberie, les bidets se sont déplacés de la chambre à coucher vers la salle de bain ou les toilettes, et ils ont pris la forme qu'on leur connaît. Ça a essaimé, petit à petit, un peu partout en Europe et en Asie, mais de façon assez rigolote, ça n'a pas essaimé aux États-Unis. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons puritaine, parce que le bidet s'était considéré comme un objet féminin associé au péché mortel qui consiste à faire l'amour pour autre chose que de concevoir des bébés. Le bidet, pour les puritains américains, c'était un truc de dégénéré français, érotico, porno, du shaitan, vous voyez. Et puis, il y a eu un monsieur américain qui s'appelait Arnold Cohen et qui s'est dit « Tiens, et si je fusionnais le bidet et les toilettes pour créer un toiletto-bidet ?» Et c'est ce qu'il a fait. Il a appelé ça le Zitz Bath. Et ça a fait un flop total aux États-Unis, mais ça a cartonné au Japon.
C'est devenu les toilettes
Toto. C'est ce qui a fini par donner, ça a été repris par les Japonais, c'est ce qui finit par donner la mode japonaise de ces toilettes du futur qui vous envoient des jets et de l'air chaud de façon chirurgicale. Le bidet lui-même, il a commencé à décliner dans les années 60 pour plusieurs raisons. La première, c'est la généralisation du papier toilette, hein, qui rend le bidet un petit peu redondant. C'est un peu ce que je disais au début. La seconde raison, c'est la pilule. Hein, et on comprend pourquoi. Voilà, ça rend certaines ablutions moins nécessaires. Et enfin, en tout cas pour les grandes villes, il y a aussi le prix du mètre carré qui a fait que les surfaces habitées sont plus petites. Et s'il faut choisir entre un bidet et une douche ou un lave-linge, la question, hein, vous en conviendrez, est vite répondue. Voilà. Aujourd'hui, le bidet il tarde à revenir, mais en revanche, l'humidité qu'il procurait, elle revient petit à petit sous la forme du papier toilette humide.
Ah, oui.
Les ventes de papier toilette humide, elles explosent dans plusieurs pays, aux États-Unis notamment, et même en France un petit peu. Ça pose d'autres problèmes dans les égouts. Parce que le papier toilette humide, ça fait des espèces de montagnes qui s'agrègent à la graisse des plats qu'on jette dans les éviers. Et ça fait des énormes boules de plusieurs centaines de kilos qui bloquent les égouts. Il y a comme ça à Londres, je crois que la ville de Londres a dépensé 600 000 dollars une fois juste pour débaucher une de ces grosses montagnes de papier et de graisse. Quoi qu'il en soit, moi j'avoue que je reste un homme de la sécheresse. Et j'espère que mon père, ce fan de bidet, me pardonne.
Je suis sûr voilà. Que vous pardonnerez.
Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Le cornichon est un produit que je n'apprécie pas particulièrement, mais dont vous allez nous parler aujourd'hui, Olivier Brousse. Non, je ne suis pas fan de cornichon.
C'est-à-dire qu'un jambon beurre avec le cornichon dedans, c'est pas votre truc.
Un peu chauffé avec du beurre salé.
Je vais d'ailleurs ouvrir dans un instant un autre débat sur le cornichon intéressant, mais d'abord revenons sur l'histoire du cornichon. Alors, c'est probablement dans l'Himalaya qu'est né le cornichon. En fait, le cornichon, qu'est-ce que c'est? C'est un cucurbitacé qui est un cousin très 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 proche du concombre. Bon, il y a eu un certain nombre de croisements qui ont été réalisés au fil des siècles, mais en fait, on pourrait résumer par le fait que le cornichon est un concombre qui n'est pas à maturité, qu'on récolte tout petit.
C'est un bébé concombre.
C'est un bébé concombre. Alors, il a été cultivé en Inde pour la première fois, il a ensuite migré vers la Chine. On pense notamment qu'il a été largement cultivé là-bas pour servir d'alimentation aux ouvriers qui ont construit la muraille de Chine. Ils mangeaient beaucoup de cornichons. En France, il arrive au XVIe siècle. Hein, il va être développé notamment dans le potager royal. Et on va développer sa culture, notamment sous serre, pour faire en sorte qu'on puisse en avoir un petit peu plus tôt dans l'année, parce que Louis XIV en était assez friand. Et puis, sa culture va se développer un peu partout. Elle va notamment se développer en Bourgogne, dans la région de Meaux, et même dans la région parisienne, figurez-vous, qui vont donner naissance à différentes variétés, comme le vert petit de Paris, ou le vert fin de Meaux, qui sont des cornichons, et notamment dans la région de Bourgogne, parce que pour faire des cornichons tels qu'on les vend aujourd'hui dans des pots, il faut du vinaigre, et qu'on sait que c'est les régions productrices de vin qui, en général,
donc ça, c'est les aussi cornichons aigres doux.
Les petits cornichons, parce que je vais venir aux autres. Oui. Alors, ensuite, il y a eu un drame, en quelque sorte, dans les années 80-90, c'est-à-dire que les grandes entreprises qui produisaient des cornichons sont parties de France. Elles ont totalement délocalisé, essentiellement en Inde, pour une bonne et simple raison, c'est que là-bas, la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, et le cornichon est assez coûteux en main-d'œuvre, parce qu'il faut le récolter. Et puis, surtout, parce que là-bas, avec le climat caractéristique, vous avez 3 récoltes de cornichons par an, alors qu'on n'en a qu'une seule avec nos saisons ici en France. Mais, heureusement, depuis une vingtaine d'années, grâce à 2 maisons que je veux citer parce qu'elles ont fait un travail fantastique pour réintroduire le cornichon chez nous. C'est la maison Marc qui est située dans l'Yonne et qui maintient une production locale de cornichons français qui va de la plante jusqu'au bocal. Et puis aussi les Jardins d'Orante qui depuis 2015 proposent eux aussi toute une gamme de cornichons, notamment qu'on peut trouver en grande surface. Il faut les féliciter parce que 99,9% des cornichons qu'on mange...
Les mailles, ils ne viennent pas de France.
Non, malheureusement, ils ne viennent pas de France. C'est des cornichons qui sont produits ailleurs. Bah oui. Et puis, il y a le gros cornichon, vous savez, le fameux
mal au sol
avec une saveur qui est beaucoup plus douce, oui, qui est préparée dans une saumure. Et alors là, le débat, c'est oui ou non, pour ou contre, le cornichon mal au sol dans les hamburgers. Parce que là, ça divise radicalement les gens.
J'ai jamais posé la question.
Le pickle est nécessaire.
Internet, vous verrez des forums entiers de débats, et notamment concernant une grande enseigne de hamburgers. Vous avez ceux qui les gardent et vous avez ceux qui les enlèvent. Je sais pas, est-ce que vous êtes pour ou contre le cornichon?
Ça fait 20 ans que je n'ai pas mangé d'hamburger.
Pas un seul hamburger?
Non. Ah, même les burgers même les gourmets de brasserie?
Parce qu'en fait, c'est le pain, quoi. Il y a trop de pain.
Trop de points Weight Watchers. J'ai compris.
Trop de points et trop de pain.
Bon, alors vous allez pouvoir quand même faire des cornichons à la maison. Vous pouvez les planter dans votre jardin. Alors, c'est une plante qui pousse extrêmement bien. Ça se récolte entre mi-juillet et le mois de septembre. Et alors pour les faire, c'est très simple. Il vous faut du gros sel. Donc vous allez prendre 1 kg de cornichons. Vous les mettez dans un saladier. Vous les recouvrez de gros sel de manière à les dégorger. Ensuite, vous les brossez bien, vous les passez sous l'eau pour bien enlever les excédents de sel. Vous les mettez dans des bocaux avec de l'estragon, des graines de moutarde, des graines de poivre, des graines de coriandre. Vous prenez du vinaigre blanc que vous faites chauffer, vous versez par-dessus. Alors, il y en a qui font chauffer et d'autres qui ne le font pas. Il paraît que quand on fait chauffer le vinaigre blanc, l'intérêt, c'est que les cornichons restent plus croquants. Et donc, vous le faites chauffer, vous versez dessus, vous fermez, vous attendez quelques jours et puis vous pouvez commencer à déguster vos bocaux de cornichons qui vont tenir quelques semaines, voire quelques mois dans un endroit à l'abri de la lumière et pas trop chaud.
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Alors, les cornichons, évidemment, on va voir que vous êtes en quelque sorte des cornichons aussi.
Franchement, vous n'êtes pas allé à chercher bien loin.
Non.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe, j'ai des questions à vous poser. Je commence avec vous, Olivier. Si Joséphine de Beauharnais est morte d'une pneumonie, c'est à cause d'un date qu'elle a eu avec le tsar Alexandre Ier. C'est vrai ou c'est faux?
Elle aurait pris froid et paf. Mmh. Ce serait triste, mais j'imagine que... Est-ce que le date avait lieu où? En Russie ou...
Non, pas en non. Russie.
Mais dans un endroit frais, un peu trop froid peut-être. Je vais dire oui. Allez.
Bonne réponse. Mais oui, je t'entendais bien qu'Alexandre Ier, il vient en France, on organise une rencontre, elle a 50 ans, il en a 32. Elle se fait coquette, évidemment, elle met une robe un peu trop légère. Il se balade en barque, parce que c'est le seul moyen de ne pas les entendre. Et elle attrape une pneumonie, elle meurt une semaine plus tard. Merci Alexandre Ier.
Sympa.
Déjà les Russes à cette époque-là. Alors David, on a retrouvé dans les écrits de Jeanne d'Arc une prise de position rare pour l'époque. La Pucelle d'Orléans avait défendu les prostituées qui, selon elle, étaient victimes de la sauvagerie masculine. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous imaginez Jeanne la Pucelle défendre les prostituées?
Avec sa proximité à Dieu, je dirais que non.
Évidemment, au contraire. Dans un manuscrit de 1484, elle fustige les prostituées qui traînent parmi les troupes et qui leur retiraient leur esprit de guerre et poussaient les soldats à trop de détente.
Non.
Mathieu, Charlotte de Savoie fut reine de France durant 22 ans au XVe siècle par son mariage avec...
Guy Savoie. Non.
Avec, j'aurais dit le gâteau. Le gâteau de Savoie. Non, avec bon. Louis XI.
C'est bon, le gâteau de
Elle
Savoie.
Va avoir 8 enfants, dont seulement 3 connaîtront l'âge adulte. Parmi les survivants, il y avait qui? Jeanne la Boiteuse, Childéric la Fable ou Jean le Prudent?
Jean le Prudent? Non. Childéric la Fable.
Réfléchissez.
Childéric la Fable. Jeanne la Boiteuse.
Vous redites.
Il y en avait un des trois, je vous le dis.
Vous redites, etc.
Et de toute façon, je m'en fous puisque j'ai mon point supplémentaire.
Les enfants de Louis XI. Faites un.
Mais je n'ai aucune idée. Ça veut dire que vous connaissez les enfants de Louis XI.
Mais choisissez quelque chose. Voyez.
Mais moi, je choisis ce que j'ai dit. Alors, Childéric.
Childéric, vous pensez que c'est un prénom.
Non, c'est un nom, pas du tout. Non, alors,
attends.
Jeanne la Boiteuse. Jeanne la Boiteuse, oui, exactement,
oui,
c'est
Jeanne
elle.
La Boiteuse.
Bien sûr, c'est
je
elle.
Je veux être aidé de la même façon.
Okay. Allez, vite, la question qui
Jeanne la Boiteuse, Jeanne de France, Jeanne l'Estropiée, elle devient sainte, c'est une consolation, hein, 445 ans après sa mort. Alors, question qui les partage. Napoléon aimait beaucoup l'eau de Cologne, il avait les flacons plats, il avait qui permettaient d'en mettre dans sa botte. On a retrouvé une facture datant d'octobre 1808. Combien de bouteilles a-t-il acheté de flacons d'eau de Cologne?
Il était un peu acheteur compulsif.
Disons, il y en a un certain nombre.
Bon, ok.
Plus que moi, en tout cas.
42.
Vous... 70.
24.
C'est Olivier qui gagne. 72, exactement.
Oh, ça sert à quoi d'avoir tant d'autres colonnes? Enfin bon.
Ça évite donc, de se laver.
Vous êtes... oui, c'est ça. C'est égalité, c'est moi qui suis derrière.
Égalité,
et c'est David qui ferme la danse.
Voilà. Ouais.
Justement. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré à ces dames dont le nom prête à confusion. Vous savez, Stéphane, s'il existe d'ailleurs un autre Stéphane Bern, quelque part, un homonyme, comme ça?
Non.
Non, vous êtes unique. Vous êtes absolument unique.
Je ne prétends pas du tout ça. Je ne connais pas d'autres Stéphane.
Mais vous avez un homonyme, y compris dans la maison, puisque David, on a trouvé plein de courriers pour vous qui n'étaient pas à vous.
Mais c'est pas un homonyme, elle s'appelle, je crois, Stéphanie Noël. Et Noël, il y en a plein, ça c'est sûr. Mais il existe plein de Mathieu Noël en France, ça je peux vous le dire.
Père Noël.
Évidemment. Bien joué, Olivier, c'est bien. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain, Stéphane, et que vous connaissez le programme.
Oui, alors que s'ouvre la 75e édition du Festival de Cannes, on réunit ceux qui se sont pris les pieds dans le tapis rouge. Le réalisateur Marco Ferreri, dont le film La Grande Bouffe a copieusement été hué. Puis Jean Zay et Philippe Erlanger, qui ont eu l'idée de créer le festival, mais la guerre est venue chambouler leurs plans.
Et moi, je vous raconte une comédienne qui a vécu plus récemment sur les marches de Cannes un accident émouvant, selon ses propres termes, Sophie Marceau. Je vous dévoile tout ça demain, bande de petits coquins. Allez, à demain. À demain, Stéphane.
À demain, Mathieu. À demain, les amis. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.